BFM Business présente...
Tous les jours, j'entends quoi? De nouvelles solutions, de nouvelles entreprises, de nouvelles levées de fonds. Mais c'est extraordinaire. Mais
vous J'ai avez dit, il y a un vrai souci, il faut créer de l'emploi.
Je suis assez d'accord avec ce qui a été dit.
Il suffit d'écouter BFM Business.
Voilà, magnifique.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business.
Allez, 18h, soyez les bienvenus comme tous les soirs dans Good Evening Business jusqu'à 20h. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
Alors dans l'actualité ce soir, c'est le plan qu'Elisabeth Borne est en train de présenter qui est censé s'attaquer à cette crise du logement que subissent des millions de Français. Sauf que ce soir, tous les professionnels quasiment disent qu'on est une fois de plus passé complètement à côté du sujet. On va retrouver Thomas Schnell sur place dans un instant, puis c'est le patron du réseau Orpi qui sera avec nous dans 10 minutes pour en parler, bien sûr.
Et puis sinon, c'est du côté d'Apple aussi que l'on va regarder ce soir, puisque le patron du groupe pourrait annoncer tout à l'heure, lors d'un keynote, le lancement d'un casque de réalité mixte. Ça fait 9 ans depuis 2014 et l'Apple Watch qu'il n'y a pas eu d'innovation produit majeure chez Apple.
Ça ne nous rajeunit pas. Et puis dans le grand débat tout à l'heure, on viendra sur le maintien de la note française par Standard & Poor's, parce que on s'est dit finalement ce matin, mais pourquoi ils ne nous ont pas dégradés? Tant mieux, vous me direz.
Bonne nouvelle.
Pourquoi? Oui, bonne nouvelle, mais pourquoi finalement? On s'interrogera et on en reparlera bien sûr tout à l'heure. Voilà le programme non exhaustif, bien sûr, parce qu'on est ensemble jusqu'à 20h sur BFM Business.
C'est parti.
Good evening business, le journal.
Donc, Elisabeth Borne qui est en train de faire la synthèse à Paris du plan logement annoncé ce matin. Bonsoir Thomas Schnell, on vous retrouve sur place pour BFM Business. Plan qui, vous l'avez vous-même constaté, déçoit fortement... Bonsoir. Les acteurs de la profession, Thomas.
On les a entendus hein, d'ailleurs avec la prise de parole d'Olivier Salleron, le président de la Fédération française du bâtiment, qui a lu un communiqué sans langue de bois contre le plan à minima du Conseil national de résistance, les conclusions présentées par la Première ministre. Il dénonce un décalage entre le mot de bombe sociale qui va arriver, qui a été répété tout au long de l'après-midi, le décalage entre la bombe sociale et la faiblesse des mesures qui sont proposées ce soir par Elisabeth Borne. Donc la Première ministre a confirmé la prolongation du prêt à taux zéro jusqu'en 2027, mais seulement pour l'achat dans le neuf locatif collectif ou eh bien l'ancien qui sera conditionné à des travaux de rénovation. Voilà le prêt à taux zéro. Donc également une normalisation de la fiscalité locative qui est aujourd'hui peu lisible selon la Première ministre, qui va s'aligner entre les locations de courte et de longue durée, avec notamment en ligne de mire supprimer les niches fiscales accordées aujourd'hui aux locations meublées touristiques type Airbnb, que la Première ministre souhaite voir partir de beaucoup de centres touristiques. Voilà beaucoup de mesures qui sont présentées en ce moment. Également la prolongation du bail réel solidaire qui sera étendu et des logements locatifs à loyer plafonné dont la production devrait être augmentée ces prochains temps. Mais on l'entend, voilà, c'est la douche froide pour les acteurs qui sont tous présents, les acteurs de l'immobilier qui sont présents pour écouter le discours d'Elisabeth Borne.
Merci beaucoup Thomas. Le patron du réseau Orpi, je vous disais dans au moins 10 minutes, il sera avec nous également pour en parler ce soir sur notre plateau. Ça semble être la douche froide. Une fois de plus, on semble être passé à côté du grand sujet, Audrey, finalement.
En effet, je pense que le terme de bombe sociale est plutôt à propos, puisque fin 2022, je vous rappelle qu'il y avait près de 2,4 millions de ménages qui patientaient en France pour bénéficier justement d'un logement social. Par ailleurs, aucune mesure non plus annoncée sur la libération du foncier, qui est un sujet essentiel, alors que beaucoup de propositions avaient été faites au CNR. Mais on continuera à en parler dans le grand débat ce soir. Guillaume.
Absolument, avec un promoteur aussi qui viendra nous voir tout à l'heure à 19h15. 18h03 en ce moment, je vous le disais, ça sent la grosse annonce chez Apple ce soir en Californie. Bonsoir Frédéric Simotel.
Bonsoir Guillaume.
Il y a une keynote depuis Cupertino à 19h. Édition spéciale sur BFM Business, Tech & Co. ce soir à partir de 20h. Parce que Tim Cook pourrait nous annoncer lui-même le lancement d'un casque de réalité mixte. Ça fait combien d'années qu'il n'y a pas eu d'innovation majeure chez Apple, Frédéric?
Vous l'avez dit, ça fait 9 ans. Et alors, il y a des innovations régulièrement avec les nouveaux iPhones, etc. Mais en termes de produits, le dernier gros produit sorti et qui a modifié un peu, qui a transformé un peu une partie de la stratégie Apple, c'est la montre, la Watch d'Apple, mais qui est sortie il y a 9 ans.
2014. Donc,
voilà. Très attendu. Un casque très attendu, encore plus attendu, parce qu'on s'attendait à le voir arriver à cette conférence. Alors, c'est la WWDC, D comme développeur. C'est la conférence développeur. On s'adresse aux développeurs avant tout, on ne s'adresse pas aux clients d'Apple, mais on en profite toujours pour dévoiler des produits. Donc là, on va avoir sans doute ce casque, hein, puisqu'il aurait dû être... L'année dernière, on attendait le One More Thing, et puis on ne l'a pas eu. Donc cette année, on s'attend à ça. C'est quand même la grosse rumeur, là. Donc il y aura des nouveaux Mac, il y aura des nouveaux systèmes d'exploitation iOS, et donc ce casque de réalité mixte, c'est-à-dire qu'il sera à la fois de la réalité virtuelle et à la fois de la réalité augmentée. On s'attend à un casque assez cher, hein, au-delà de 3 000 $, avec plein de technos, signaux issus notamment des téléviseurs les plus haut de gamme. Donc c'est pour ça un peu que toute cette intégration prend beaucoup de temps et qu'Apple dit que ça fait des années qu'ils travaillent dessus. Mais à côté de ça, il faut qu'ils se dépêchent parce que derrière, il y a des Meta, il y a des Samsung, enfin même devant, il y a des Meta, il y a des Samsung, il y a des Google, il y a d'autres qui arrivent. Et puis, c'est un casque de... Tous ces casques, on va les retrouver partout, dans les jeux vidéo, bien entendu, dans les applications B2B, la santé, l'industrie. On va aussi le retrouver... Ben oui, on parlait d'immobilier tout à l'heure. Ben oui, on fera des visites virtuelles, on pourra aller dans les magasins via ces casques. Et puis, bien, ça va. Pourquoi pas? Est-ce qu'on n'est pas aussi dans la future génération de nos smartphones, hein, quand ces technologies seront complètement réduites à une lentille qu'on aura dans l'œil et un processeur qu'on pourra avoir dans une petite sur un vêtement, pourquoi pas? N'est-on pas en train de voir naître le futur smartphone?
Et ben voilà, Tim Cook sur scène à partir de 19h, hein, depuis Cupertino, puis édition spéciale.
C'est déjà enregistré, il faut savoir, ça passe en streaming, c'est enregistré, ça démarre à 19h. Ce sera la plus longue conférence d'Apple, dit-on, depuis une dizaine d'années.
Et Tech & Co, donc à partir de 20h pour
décortiquer. Sur YouTube, Tech & Co sur YouTube à 19h et à 20h, ici même, sur ce plateau.
Et ben voilà, soyez fidèles. Merci beaucoup Frédéric. Dans l'actualité des entreprises, cette énorme commande qui se précise pour Airbus, puisque c'est la compagnie indienne Air Indigo qui pourrait lui commander d'un seul coup, tenez-vous bien, 500 appareils, 500 modèles A320 en l'occurrence. Qu'on te rapproche des 50 milliards de dollars tout de même, Jean-Baptiste Huette.
En Inde, pour Airbus, le soufflet ne retombe pas. Après une commande d'Air India de 250 appareils il y a quelques mois, voici maintenant 500 appareils pour la compagnie Air Indigo. La low-cost contrôle là-bas plus de 50% du marché. Selon toute vraisemblance, cette incroyable commande devrait être annoncée à l'occasion du Salon du Bourget dans quelques jours. Les rumeurs de ce contrat historique circulent déjà depuis quelques mois. Air Indigo commanderait donc 500 monocouloirs de la famille A320 pour 50 milliards de dollars au prix catalogue. Air Indigo, décidément un client privilégié pour Airbus, puisque la compagnie a déjà acheté 250 appareils en 2015. Cette nouvelle commande illustre l'incroyable vitalité du secteur aérien indien, en pleine expansion et en cours de modernisation. C'est le troisième marché mondial après les États-Unis et la Chine. Le trafic devrait connaître une croissance annuelle moyenne de 6,6% au cours des 20 prochaines années. De quoi donner des sueurs froides aux industriels de l'aéronautique qui vont devoir plus que jamais mettre les bouchées doubles pour honorer ces avalanches de commandes.
Voilà, Salon du Bourget qui débute officiellement le 19 juin. Et puis on a des infos à vous donner pour terminer concernant Atos. Bonsoir Mathieu Pechberti.
Bonsoir Guillaume.
Parce que d'après vos informations, c'est l'un des actionnaires du groupe, le fonds Sycomore, qui propose la nomination d'un nouveau patron. Qui n'est pas le premier venu, c'est Léo Apothécaire, ancien patron de SAP et de HP. Le problème, c'est qu'il y a déjà un patron en place, pour le coup, Mathieu.
Oui, exactement. Et c'est effectivement la place pour la présidence d'Atos qui est un peu en jeu. Il y a une assemblée générale importante chez Atos qui se tient le 28 juin dans 3 semaines. Et donc, c'est cette bataille-là qui est en train de se jouer. Alors, le fonds Sycomore est actionnaire d'Atos depuis pas mal de temps et milite depuis de longs mois maintenant pour évincer Bertrand Meunier, l'actuel président d'Atos, ce qu'il a déjà dit. Mais là, il propose effectivement, selon nos informations, le nom... Une personnalité en tout cas connue dans le secteur de l'informatique, c'est Léo Apotheker, un dirigeant allemand qui a dirigé HP et SAP, l'éditeur de logiciels. Alors pour le moment, le fonds Sycomore attend une réponse, on va dire formelle, de la direction d'Atos, mais nous, selon les sources que nous avons eues au téléphone, un proche du président d'Atos, Monsieur Meunier, clairement cette candidature n'est absolument pas la bienvenue. On souligne d'ailleurs, pour qu'on commence en tout cas la dynamité, on souligne que Léo Apotheker, ce qui est vrai, a été à la fois évincé de HP et de SAP un an tout juste après son arrivée, donc il n'a pas laissé de très bons souvenirs dans ces deux entreprises, alors même que ça faisait partie des lignes, on va dire, importantes sur son curriculum vitae. Et puis on explique aussi, ce qui est vrai aussi d'ailleurs, que les résultats de l'Atos s'améliorent un peu. Alors, on est encore loin du redressement spectaculaire, mais
on a un cours de bourse qui quand même a du mal aussi.
Alors on a un cours de bourse qui est tombé tellement bas qu'il ne pouvait que remonter, mais enfin c'est vrai que ça va un petit peu mieux qu'il y a 6 mois. Et donc Bertrand Meunier, dont il était question qu'il parte dès cet été, c'était le cas il y a encore 6 mois, pourrait partir plutôt à la fin de l'année prochaine, au moment où la société Atos doit se scinder en deux parties, ses activités historiques et puis ses activités d'avenir autour de la cybersécurité.
Voilà, vos informations, bataille pour la présidence d'Atos, et donc toutes ces informations, Mathieu, sont à retrouver sur notre site bfmbusiness.com. Merci beaucoup Mathieu. Merci. 18h09, on va sur les marchés justement. Les marchés, Étienne Brack à Euronext pour BFM Business. Bonsoir Étienne, comment s'est passée cette journée, ce beau lundi?
Bonsoir. Bon, bah, s'il y a un record ce soir pour Apple, il n'y a pas de record à la Bourse de Paris, hein, puisqu'on a, y a toujours une consolidation qui se met en place. Moins 1% pour l'indice parisien qui retrouve les 7200 points. Christine Lagarde cet après-midi qui dit que pour l'instant, rien nous dit qu'on a passé le pic d'inflation. Vous imaginez bien que vous avez certains analystes qui se grattent un petit peu la tête, surtout à 10 jours de la réunion de la BCE. Donc vous avez les taux qui grimpent, un marché action qui baisse un petit peu, et puis dans le même temps, des cours du pétrole qui remontent, hein, puisque hier, lors de la réunion de l'OPEP Plus à Vienne, on a l'Arabie Saoudite qui a annoncé réduire sa production de pétrole à hauteur de 1 million de barils par jour. Donc vous avez un Brent qui gagne quasiment 2%, qui retrouve les 77$. Ça profitait pendant un temps à Total Energy avant de se replier, puisque ce soir vous avez uniquement les valeurs défensives qui sont dans le vert, du Carrefour, du Orange, du Sanofi ou encore du Veolia. Ça vous donne un petit peu l'état d'esprit des marchés qui sont quand même très prudents en ce moment, le tout avec des volumes d'échange particulièrement faibles, puisque vous avez seulement 2,5 milliards d'euros échangés dans l'indice. Et donc l'indice parisien qui perd 1% ce soir à la clôture, 7200 points pile au fixing.
Merci beaucoup Étienne. Étienne Braque, donc à Euronext pour BFM Business. On regarde rapidement ce qui se passe du côté de Wall Street, bien sûr, à la mi-séance. Le Dow Jones en léger repli, moins 0,2%, 33 685 points. Et puis l'indice Nasdaq de son côté qui grappille, allez, 0,5-0,6%, 13 314 points. Tout ça à la mi-séance. 18h11, c'est l'heure de notre premier invité tout de suite sur BFM Business.
Good evening business, l'invité.
À parler de logement, évidemment.
Eh bien oui, un sujet qui cristallise beaucoup d'opinions divergentes.
C'est le moins qu'on puisse dire. Guillaume Martineau, bonsoir.
Bonsoir.
Président du réseau Orpi, réseau immobilier coopératif. Monsieur Martineau, depuis ce matin et même depuis quelques heures, on entend tous les acteurs du logement dire qu'on est passé, une fois de plus, complètement à côté du sujet. Est-ce que c'est aussi votre état d'esprit ce soir?
Je pense qu'on est passé, oui, effectivement, à côté de beaucoup de sujets. On en parle. Je retiendrai quand même le côté positif d'avoir parlé du logement, parce que ça fait beaucoup de mois qu'on ne parle pas de logement ou pas assez. Donc, moi, j'essaie toujours de voir le côté positif, donc au moins on en parle. Les gens sont en train de prendre conscience, le gouvernement prend conscience. Maintenant, si on regarde réellement les annonces, parce que je les ai découvertes aussi il n'y a pas très longtemps, oui. Ça vient de se terminer, il y a peu de choses, très peu de nouveautés, il n'y a rien de particulier, donc on sent qu'on tourne autour, on en parle, mais on ne fait rien de concret pour aider véritablement nos concitoyens. Donc,
Mais enfin, alors nous, on en parle souvent sur ce plateau, hein, Guillaume, du sujet du logement, et on le répète par ailleurs depuis des années, le sujet, c'est quand même le manque de logements neufs. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu frapper fort de ce côté-là? Et si oui, comment?
Ben déjà, cette histoire de PTZ, qu'on limite le prêt à taux zéro pour vos téléspectateurs, et ben c'est quand même limité. On parle que de logement pour du collectif, pas de la maison individuelle.
Alors que c'est la moitié, finalement, du travail.
Et puis tous les gens veulent pouvoir se loger individuellement. L'idéal, ce qu'on aime tous, c'est pouvoir tourner autour de chez soi et pas vivre... Voilà. Alors, je sais qu'il y avait un ministre, il y a quelques années, qui avait une vision, il fallait qu'on vive tous dans des immeubles, mais alors qu'elle vivait elle-même, je crois, dans un pavillon individuel. C'est pas gentil, mais il faut le dire aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut dire les choses. Citoyens veulent pouvoir vivre individuellement. Donc là, frapper fort, oui, il fallait le faire. Maintenant, je comprends aussi que le gouvernement ne puisse pas tout faire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le faucon Yaka, c'est facile, on peut très facilement dire faites ça, mais comment ? On a un problème de financement, on a un problème de banques aujourd'hui qui ne prêtent pas beaucoup. Donc les banques aussi, je pense qu'il ne faut pas non plus taper pour le plaisir de taper sur une banque. Une banque prêtera si derrière, elle gagne de l'argent avec le prêt immobilier. Donc, je pense qu'il faut assouplir les conditions d'accès au crédit pour que les gens et que les banques puissent prêter. Alors, en fait, il faut que tous les acteurs s'y mettent. Mais là, il n'y a pas de mesures réellement qui donnent envie, qui donnent des perspectives. Moi, j'ai une très, très grosse crainte, c'est tout ce qui est logement, toute la location, tout le marché de la location.
Oui.
On s'oriente de plus en plus vers des gens, des investisseurs qui vont se tourner vers Airbnb. Hein. Aujourd'hui, je ne sais plus si mon ministre de tutelle, finalement, c'est le patron d'Airbnb ou si c'est le ministre du logement, parce que on n'aide pas...
C'est dur, là, quand même.
Je suis dur, mais à moi, la langue de bois, ça, c'est limite.
Non, mais ce que vous dites, en fait, c'est que l'investissement locatif s'effondre.
Il n'y a pas d'investissement locatif, on ne vous aide pas à investir. Alors, je comprends...
Vous avez la remontée des taux d'intérêt quand même qui joue aussi.
Je comprends aussi qu'on ne puisse pas sortir des aides sans arrêt. Voilà, je pense qu'on a des finances publiques qui ne sont pas non plus au mieux de leur forme. Donc on peut pas, il faut sortir de ce côté des aides en permanence. Mais si on passe de tout à rien, s'il n'y a pas un minimum d'aide, à un moment donné, on vous aide à avoir une petite, ce qu'on a les fameuses carottes fiscales, eh ben, vous n'allez pas investir. Et si vous n'investissez pas, vous allez vous tourner vers du logement Airbnb. Alors je ne voudrais pas taper spécifiquement sur Airbnb, mais tout de même, c'est-à-dire que si on n'aide pas les gens à mettre en location, on a une vraie tension sur ce marché-là. Comment vous, moi, c'est franchement dans nos agences, quand on doit loger des locataires, quand on doit sélectionner des dossiers parce qu'il n'y a pas d'aide, c'est difficile.
Non, mais on parlait effectivement du manque de foncier. Est-ce que ça reste pour vous le nœud du problème? Et est-ce qu'il va falloir en arriver à des mesures politiquement incorrectes ou il va falloir passer au-dessus des maires finalement pour libérer du foncier? Est-ce qu'il faut donner plus de prérogatives aux préfets? C'est une piste qui avait été évoquée, on n'avait pas été plus loin quelques années, mais on l'avait évoqué ça quand même.
Je pense que vous voyez dans l'actualité actuellement que les maires sont soumis à beaucoup de pressions diverses et variées.
Bien sûr.
Dès qu'un maire ouvre des possibilités de logement ou de construction, les fameux maires bâtisseurs, c'est mal vu. On en a déjà parlé ensemble, Guillaume, vous le savez. Oui. Et je peux même témoigner, puisque derrière chez moi, voilà, dans ma vraie vie à moi, il y a des constructions qui se font. Donc, sur le coup, vous dites, ça ne m'arrange pas vraiment. Sauf que s'il n'y a pas de construction, vous avez toujours cette pression sur les prix. Donc, aider les maires, oui, peut-être passer par les préfets, mais en concertation, parce que tout ce qui est imposé n'est pas non plus judicieux. Mais en tout cas, c'est un des nœuds, parce qu'il n'y a pas assez de logements en France. Donc, si vous voulez
dégonfler... Et là-dessus, il n'y a rien, d'accord.
Il n'y a rien, il n'y a pas grand-chose.
Alors, sachant que sans libération de foncier, pas de baisse de prix, et sans baisse de prix, pas de construction.
Voilà, et puis il faut savoir aussi que quand nous, on vend un terrain, par exemple, quand les logements privés ou un promoteur construit, derrière, il y a du logement social qui se fait.
Oui.
Parce que moi, en tant qu'un réseau d'agents immobiliers Orpi, le logement social, on n'a pas on peut pas vraiment agir dessus, mais on agit tout de même un peu à notre façon, parce que un terrain qui est divisé, vous avez une part qui est réservée au logement social, donc quand vous n'avez pas de logement, finalement, il n'y a pas de logements sociaux qui se font derrière.
Mais alors justement, sur le logement social, quand on sait que le délai moyen, c'est 8 ans d'attente, et que fin 2002, on avait 2,4 millions de ménages qui, justement, attendaient d'avoir accès à un logement social. Ce qui a été annoncé aujourd'hui, a priori, n'apporte aucune solution à ce problème.
Non, mais il n'y a pas de solution. Aujourd'hui, ce qui est... En fait, on parle du logement. C'est ce que je vous disais en entrée. On parle du logement, mais il n'y a pas de concret. En fait, on a l'impression que tout le monde tourne autour sans mesures réellement fortes. On nous parle du bail réel et solidaire, mais enfin, ça reste tout de même un peu compliqué. Les gens voudraient pouvoir acheter un bien à eux. On leur dit, mais non, là... Ou alors vous achetez en zone détendue, enfin du prêt à taux zéro en zone détendue, c'est-à-dire que vraiment on vous envoie là où personne ne veut aller, et puis il y a des conditions d'accès aux ressources. Si vous gagnez 27 000 euros, si vous êtes célibataire, ou 37 000 ou 38 000 euros pour un couple, donc on ne vous envoie pas vraiment là où en fait il se passe beaucoup de choses.
La mesure qui aurait changé les choses pour vous, Guillaume, la mesure qui n'est pas dans ce plan, qui aurait pu faire changer les choses, véritablement.
Qu'on aide les banques à assouplir le crédit, en tout cas immédiatement, et sur le logement, sur la location, c'est qu'on arrête de mettre des normes dans tous les sens.
Ouais.
Voilà, ça, je pense qu'on aurait pu peut-être avoir un moratoire. Je l'avais dit la dernière fois que j'étais venu, je trouvais que c'était une bonne chose, la loi climat et résilience, mais peut-être mettre un moratoire, en tout cas aider les gens à passer ce cap.
Voilà. Oui, donc en gros, ce que vous dites, c'est que à un problème structurel, on apporte des mesures conjoncturelles.
Exactement, et la vision, je pense, du gouvernement, c'est une vision conjoncturel et ils pensent que ça va passer, alors que nous, les professionnels immobiliers, on sait très bien que c'est structurel, qu'il faut prendre le mal à la racine. C'est pas d'ailleurs lié juste à ce gouvernement-là, ça fait des années que ça dure. Libérez le foncier et vous aurez plus de logements,
Justement, vous dites que ça fait des années que ça dure. Il y a une question qu'on pose parfois ici, c'est est-ce que vous considérez que le logement est un secteur trop stratégique, pardon de le dire comme ça, pour laisser ça aux politiques finalement?
Je pense qu'il faudrait que les politiques...
Est-ce qu'un ministre de logement qui défile comme ça à la vitesse, pas la lumière, mais...
En fait, autrement dit, pour aller même plus loin que ce que vous dites, Guillaume, est-ce qu'on n'a pas des problèmes de logement depuis qu'on a un ministre du logement en place?
Je pense qu'on a un problème de... Les ministres passent, effectivement. Chacun veut sa réforme, là, au revoir Pinel, et puis bientôt, il y aura autre chose. En fait, chaque ministre apporte quelque chose. Ça devrait être un sujet qui rassemble tous les Français et tous les gouvernements, quel que soit... Alors, peut-être que c'est utopique, ce que je vous dis là, mais effectivement, on n'a pas de vision de long terme. La fiscalité en France, ça change au gré des ministres, au gré des gouvernements. Prenons nos voisins allemands, il y a des mesures beaucoup plus longues. Vous avez une vision longue. On ne vous change pas les règles du jeu en cours de match. Quand vous faites un match de rugby, on ne se met pas à changer les règles en plein milieu. Et là, on les change en permanence. Donc, personne n'y comprend rien. MaPrimeRénov, des comptoirs de MaPrimeRénov, oui, très bien, mais ça marche comment? Enfin, le prêt au zéro, mais alors en zone tendue, détendue, voilà. Plus personne n'y comprend.
Et alors donc on précise pour nos auditeurs, justement, les dispositifs de la loi Pinel, ça c'est terminé.
C'est terminé. Mais je comprends aussi qu'on ne puisse pas en permanence avoir des aides. Ça, j'ai pas de souci. Nous, on fait notre métier, on en avait parlé avec le pacte anti-inflation, baisser les prix pour ramener tout le monde dans les clous. Mais aidons les banques à prêter. Parce que quand le reste à vivre, quand on vous embête, alors qu'il vous reste suffisamment, mais qu'on vous dit vous rentrez pas dans les clous, j'ai encore eu le cas d'un client qui me dit mais je peux pas faire mon opération alors qu'il gagne confortablement bien sa vie. Donc
C'est trop. Oui, mais là, on en revient au taux d'intérêt qui reste trop élevé.
Ben, les taux d'intérêt restent trop élevés, mais reprenez en 2010, on était à 4%. Je crois que ça serait une utopie de penser, ce qui n'était pas.
Non, mais quand j'entends Elisabeth Borne ce matin qui dit on prend des mesures le temps que les taux se rééquilibrent, mais les taux ne vont pas se rééquilibrer, Guillaume, on est d'accord.
Enfin, pas tout de suite.
Les taux, d'après ce que je comprends.
Ils vont se normaliser, revenir au
niveau. Ils vont revenir, d'après ce que je comprends, à l'été, on sera à 4%, peut-être un peu plus. Voilà. Mais ce qui n'était pas normal non plus, c'était d'être à 1,20 ou
peut-être
avec des prêts taux négatifs. Et on a mal habitué les gens pensant que ça serait éternel. Donc, il faut que tout le monde gagne sa vie pour prêter. Et. Je ne suis pas toujours d'accord avec nos amis banquiers, mais si on ne les aide pas, ils ne prêteront pas. Si on n'aide pas à libérer un peu de foncier, les maires n'y arriveront pas. Il faut les soulager, peut-être leur ne plus avoir cette pression de « je suis maire, je veux dire mon ministre ».
Votre ministre, Olivier Klein, qui parle lui de bombe sociale. Je ne sais pas si c'est un terme que vous reprenez à votre compte.
Mais enfin, si, mais il a raison, mais le problème, c'est que de parler de bombe sociale, il faut être conscient que ça, les bombes, à un moment donné, finissent par exploser.
Merci beaucoup, Guillaume Martineau. Merci d'être venu nous voir, le président du réseau Orpi, réseau immobilier coopératif. Puis on continuera le débat dans un instant. Et puis, c'est Norbert Frachon, qui est lui promoteur, le groupe Gambetta, qui sera tout à l'heure à 19h15 pour poursuivre la discussion. Merci beaucoup, Guillaume Martineau, d'être passé nous voir sur BFM Business, 18h20.
C'est l'heure du grand débat, dans un instant, dans quelques secondes. Donc, on va en effet continuer à parler. Logement, mais pas que. Hein, bonne nouvelle aussi.
Standard & Poor's, parce qu'on s'attendait tellement à une dégradation, c'est pas qu'on a été déçus, on n'est pas.
Alors, on a lancé des paris, d'ailleurs, je vous rappelle que vous avez perdu et j'ai gagné.
Exactement, mais on se demande malgré tout pourquoi on n'a pas été dégradé.
Bah, justement.
On se fait des nœuds au cerveau comme on peut, évidemment.
A tout de suite.
Good evening business, le débat.
Allez, 18h25, c'est parti pour le grand débat jusqu'à 19h avec Audrey Tcherkov.
Bonsoir.
Bonsoir, Nathalie Janson est avec nous. Bonsoir, Nathalie.
Bonsoir.
Lim Wangnok, économiste professeur associé à Neoma, pardon. Lim Wangnok est avec nous. Bonsoir, Lim. Maître de conférence en économie à l'Université de Paris, ancien député européen. Et Emmanuel Le Chypre avec nous. Bonsoir, Emmanuel. Alors, c'est le plan qui était censé s'attaquer à la crise du logement que subissent des millions de Français, sauf que les...
Censés,
professionnels sont quasi unanimes. On vient d'entendre le patron du réseau Orpi. Ils nous disent tous... On est passé largement, une fois de plus, à côté du sujet aujourd'hui.
Mais écoutez, parce que Elisabeth Borne assure en tout cas qu'elle prend en main le sujet.
Par ses décisions, l'État prend le sujet à bras le corps et nous mettons les moyens et les budgets là où c'est nécessaire, là où nous pouvons être efficaces et créer rapidement de nouveaux logements. Mais nous n'arriverons évidemment pas à obtenir des résultats seuls. Le travail continue. Nous avons besoin de votre mobilisation et de votre engagement sur les chantiers que je viens d'évoquer. Nous sommes en train de bâtir une politique du logement qui renforcera l'offre, sera compatible avec notre exigence environnementale et notre ambition sociale. Une politique pour faciliter la mobilité de chacun et garantir l'accès de tous à un logement digne, durable et abordable. Aujourd'hui, nous répondons à l'urgence et nous préparons l'avenir. C'est ensemble que nous y parviendrons.
Bon, vous semblez moyennement emballé quand même sur ce coup-là. Hein.
Alors écoutez, moi je suis partagée quand même, parce que finalement, ce qu'Elisabeth Borne annonce, c'est pas un plan de soutien, c'est quoi ? C'est un plan de débranchement des aides publiques. Donc c'est très loin en effet de ce qu'on a l'habitude de voir quand on est censé venir en aide à un secteur fragilisé. Donc on est très loin de ce plan habituel du quoi qu'il en coûte qu'on critique assez tous ensemble tous les soirs sur ce plateau. Donc là c'est l'inverse. On arrête d'injecter de l'argent, il n'y a plus de disposition de défiscalisation, il n'y a plus d'aide ciblée. Alors, d'un côté je dirais que le gouvernement est droit dans ses bottes par rapport à la politique de réduction des dépenses et en même temps est-ce qu'il y a un risque de bombe sociale? Probablement, puisque je vous rappelle que fin 2022, c'est 2,4 millions de ménages qui sont en attente d'un logement social et qui n'ont pas de réponse, et que le délai moyen pour obtenir un logement social, justement, c'est 8 ans. Donc là, il n'y a aucun début de réponse à ce sujet-là. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que probablement, on a commencé à avoir des problèmes de logement quand on a commencé à avoir un ministre du logement en place.
Quand vous entendez effectivement les mots des acteurs aujourd'hui, promoteurs, réseau immobilier, professionnels du bâtiment, enfin, c'est la douche froide, c'est un euphémisme. Nathalie, finalement. On ne rien sur ce coup-là.
Le secteur du bâtiment, oui, ça fait longtemps que c'est très problématique. En France, en plus, c'est un problème complexe. Donc, même en dehors du fait que les nouvelles annoncées ne sont pas, en rien la solution. Mais de toute façon, c'est un problème extrêmement compliqué en France. On l'a souvent évoqué. Entre le fait que vous avez un problème de mobilité, clairement, en France, que vous avez un problème également de normes qui sont Donc là, bon, là, c'est plutôt pour la location que pour autre chose. Mais effectivement, dans, avec la, les normes qui ont été prises pour le, la rénovation, il y a plein de logements, voilà, qui ne sont plus non plus alloués. Et en plus, comme souvent, il est fait état dans les logements sociaux. Les personnes qui sont dedans ne sont pas toujours celles qui devraient y être. Oui. En d'autres termes, une fois qu'on est dedans, en fait, on y reste, alors qu'en fait, il devrait bouger. Il faudrait qu'il y ait, en fait, du turnover. Ce turnover n'a pas lieu. Ouais. Donc là, c'est un peu catastrophique.
Oui. Lim, premier commentaire sur ce plan qui ne ravit personne, en tout cas du côté des acteurs du logement.
Bah, Audrey a parlé de bombe sociale. Il y en a une demain qui n'est pas désamorcée. Je parle des retraites. Ah bon, et c'est bien la raison pour laquelle Emmanuel Macron essaye de reprendre la main sur des sujets de fond qui préoccupe les Français aujourd'hui, et il y en a deux autres à part les retraites, c'est l'écologie et c'est le logement, qui sont deux problèmes clés. On l'a vu la dernière fois sur l'écologie, il n'y a rien, puisqu'ils sont plombés sur leur marge de manœuvre budgétaire, et même le rapport Pisani-Ferry qui a été publié en fin de semaine dernière fait débat dans le gouvernement parce qu'ils savent que 34 milliards par an, ils ne les ont pas. Et qu'ils ne le feront pas. Et là, sur le logement, comme vous venez de le rappeler, c'est un plan de débranchement des aides qui fait bondir toute la profession. Et donc, effectivement, sur l'offre de logement, il n'y aura rien. Le Pinel va être débranché, donc l'investissement locatif ne sera pas stimulé. La voilure du prêt à taux zéro va être réduite, donc le secteur va en pâtir. Et puis je rappellerai que quand même sur la demande, les APL ont été baissés en début de mandat. Et s'agissant du logement social, rien n'est fait. Hein, donc le résultat des courses, très concrètement, ça veut dire que faute d'offres, les prix vont continuer à monter sur le marché locatif, comme ils ne sont pas plafonnés par ailleurs. Et puis sans APL, les locataires vont en pâtir.
Et on rappellera que le gouvernement veut faire encore des coupes du côté des budgets, des aides au logement. Mais ça, on verra ça. Emmanuel nous dira ce qu'il en pense dans un instant. On fait la petite pause, 18h30, et puis on revient dans un instant, bien sûr.
À tout de suite.
Good evening business, le débat.
Ça continue avec Audrey Tcherkov, avec Nathalie Janson, avec Limon Noc et avec Emmanuel Le Chip, qui va nous dire ce qu'il pense de ce plan qui ne ravit absolument personne. Alors, c'est votre dada en plus, c'est quelque chose dont vous nous parlez régulièrement, le logement, Emmanuel. Pour vous, ça doit être le sens de tout. Vous restez sur votre faim, vous, ce soir ou pas, finalement
Ah oui, plutôt. C'est-à-dire que quand Elisabeth Borne dit qu'elle va prendre le problème à bras-le-corps, je ne sais pas très bien ce qu'elle n'a pas compris dans l'expression à bras-le-corps. C'est-à-dire qu'on a que. Non, mais quand on regarde, c'est avec une succession de petites mesures.
Conjoncturelles, alors
qu'on s'adresse. Qui effectivement n'ont pas d'envergure vraiment structurel, que oui, on est très en deçà des attentes et des problèmes aujourd'hui des professionnels du secteur, parce que on peut toujours dire oui, les promoteurs, quand ça va bien, on les entend pas, ils se mettent plein d'argent dans les poches, etc., puis dès que ça va mal, ils hurlent, etc. Là, on n'est pas dans une situation normale, on n'est pas dans une situation cyclique comme on en connaît d'habitude, on est devant un véritable mur. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça n'est pas seulement une crise classique de l'immobilier, c'est aussi plus que jamais une crise, effectivement, du logement. Hein, et souvent, on n'a pas forcément les deux en même temps. Mais là, cette crise, on la voyait monter. Alors, elle a été finalement maintenue sous le tapis par les taux d'intérêt zéro, ce qui fait que on a à peu près réussi à s'en sortir à ce moment-là. Et maintenant qu'on a des taux d'intérêt très élevés...
On ne fait que revenir à la normale par rapport à il y a quelques années.
Oui, mais je veux dire, c'est là qu'on voit finalement l'étendue des dégâts. Et effectivement, dans toutes les mesures qui sont annoncées, on éloigne la classe moyenne de la problématique du mal logement. C'est-à-dire que ça va être plus difficile pour la classe moyenne de devenir propriétaire, ça va devenir plus difficile pour la classe moyenne de devenir locataire. Et finalement, on va avoir aujourd'hui... Vous avez quand même des professionnels qui vous disent ça va créer, ça va générer 300 000 destructions d'emplois dans le secteur. J'ai du mal à croire l'idée que ça n'est qu'un début et que on peut pas résoudre le problème du logement comme ça. Moi, j'en ai assez aussi d'entendre sur des grands sujets que c'est trop compliqué, c'est un problème complexe et qu'on peut rien faire à part bouger un petit peu, etc. Dans le passé, quand on a voulu résoudre les problèmes du logement, on les a résolus. Prenez fin 19e, début 20e, quand il a fallu faire les cités cités jardins, on a fait les cités jardins, et vous avez encore plein de cités jardins dans toutes nos banlieues. Bah, quand, après la crise des années 50,
est-ce qu'il faut passer au
après les années 50, je suis désolé, on a fait les ZUP.
Oui, mais après ZUP, ça s'est quand même dégradé.
C'était deux. Oui, mais attendez, la crise qu'on va vivre, l'appel de l'abbé Pierre, les années 50, etc. C'était en réponse à ça, les ZUP. 2 millions de logements. Ouais, 2 millions de logements, on a su faire. Donc, Jean-Louis Borloo, il avait des propositions qui n'étaient pas stupides, qu'Emmanuel Macron a balayé d'un revers de main. Fait, La réalité, c'est qu'Emmanuel Macron déteste finalement l'immobilier, qui voit ça comme un placement pour rentiers qui profitent de la situation et de la hausse des prix pour se mettre de l'argent dans les poches, et qui ne voit pas.
Et qui ne voit pas la
problématique du logement, et que, encore une fois, pour terminer, le logement, encore une fois, ça coche toutes les cases.
Non,
c'est-à-dire que vous vous attaquez à la crise du logement, vous créez des emplois. Vous créez des emplois partout sur le territoire. Oui. Des emplois non délocalisables. Vous faites baisser la pression sur les prix. Vous faites du mieux vivre pour des gamins qui aujourd'hui sont dans des logements où ils peuvent pas travailler et bien apprendre à l'école. Vous rénovez des quartiers dans lesquels il y a aujourd'hui de l'insécurité et dans lesquels il y aurait moins d'insécurité. Vous cochez toutes les cases. On cherche une politique économique qui changerait la vie des gens. C'est le logement.
Ça s'appelle le multiplicateur d'investissement, ce que vous venez de décrire. Donc, moi, j'acquiesce.
Non, mais Lim, d'ailleurs, vous avez dit en effet que c'était un sujet prépondérant pour les Français, et pour cause, c'est le premier poste de dépense des ménages français. Maintenant, on n'a pas parlé pour le moment, tous les quatre, de la libération du foncier, qui est quand même un sujet majeur, alors qu'il y a eu beaucoup de propositions, d'ailleurs, qui ont été faites auprès du CNR. Rien n'a été repris.
Le CNR,
on
ne peut pas le faire.
Non, mais
franchement, le CNR, il y a plein de propositions.
Il y avait plein de propositions.
Ils n'ont pas repris grand-chose. Et sans libération du foncier, pas de baisse de prix. Sans baisse de prix, a priori, pas de construction. Bon, là où je suis quand même assez surprise de votre retour, Emmanuel, c'est que là, le gouvernement met fin au robinet d'argent public et finalement dit qu'il va laisser le marché fonctionner normalement.
Mais non, il n'est pas normal, justement, le marché. C'est bien ça le problème. Si on avait un marché à peu près, il est tellement normé, il y a tellement de choses sur ce marché que ce n'est pas possible.
Mais est-ce que vous pensez qu'il peut nous arriver ce qui se passe en Chine, par exemple?
Il aurait surtout
cette énorme crise du logement qui est démultipliée. Est-ce que c'est possible que ça arrive en France?
La crise, attendez, il y a une crise de l'immobilier en Chine. Il n'y a pas une crise du logement.
C'est pas le logement.
Il y a une crise du patrimoine. Il y a une crise parce que les prix ont beaucoup monté, qui se sont effondrés. Il n'y a pas de problématique majeure de logement. Les Chinois, ils n'ont pas de problème pour se loger. Ils ont des problèmes avec leur investissement immobilier et leur patrimoine immobilier. C'est très différent. Nous, c'est un vrai problème de logement.
Lim, est-ce qu'il faut passer au-dessus des maires pour essayer de libérer du foncier dans les villes aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut faire? Pour vous, la mesure Big Bang aurait changé les choses là, dans ce plan pour vous? C'est quoi?
Non, c'est l'investissement que ne stimule pas le retrait du dispositif Pinel. C'est quand même une niche qui permettait d'accroître l'offre dans le secteur locatif.
Bruno Le Maire dit ça.
C'est pas l'alpha et l'oméga, le Pinel. Hein. De toute façon, c'est pas ça qui va révolutionner.
Il y a le logement social, il n'y a rien dessus.
Oui.
Et puis, en attendant, il y a les aides à ceux qui n'arrivent pas à s'installer. Et les jeunes, aujourd'hui, n'arrive pas à s'installer, il y a une vraie crise du logement.
Non, mais donc en fait, en gros, côté demande, pour le moment, on n'a rien qui va recréer du rebond sur la solvabilité des acheteurs, et puis côté offre, a priori, rien qui va encourager la production de logements neufs.
Et là, pour le coup, au niveau patrimonial et fiscal, le fait qu'il ait enlevé l'ISF et qu'il ait mis sur ça n'arrange pas non plus. C'est-à-dire que là, il aurait pu au moins faire ça, être en retrait. Je sais qu'il ne sera pas d'accord, mais ça, ça participe à la moindre attractivité de l'investissement.
L'interprétation que j'ai, je partage vos regrets, sauf que vos regrets sont quand même liés au choix par ailleurs que certains d'entre vous sur ce plateau soutenaient à longueur de chronique. À partir du moment où...
C'est 2017, donc.
Depuis 2017. À partir du moment où on choisit de consacrer l'intégralité de la politique budgétaire à des baisses d'impôts qui coûtent 50 milliards par an... Vous faites la somme sur une dizaine d'années, ça fait à peu près 500 milliards. C'est des marges de manœuvre en moins que vous avez pour faire d'autres dépenses. Vous faites de la dépense fiscale, vous ne faites pas de la dépense publique.
Vous ne faites
pas d'écologie, vous ne faites pas de logement. C'est un choix politique. Et on en parlera sans doute sur Standard & Poor's. Oui. Je pense que c'est un choix que ne renie pas forcément les...
Bonne transition,
Lim. Sauf que 35 milliards, effectivement, de coûts, c'est oublié que ça en rapporte par ailleurs 80 à 90.
Oui.
Donc, c'est encore une fois, quand je vous dis que c'est qui est vraiment au pouvoir de ce SPI, c'est Excel. C'est exactement ce cas-là. Même c'est-à-dire qu'on a encore cherché des, on a encore cherché des économies à faire, mais sans avoir une approche dynamique, etc. Où sont les économistes à Bercy?
C'est la première fois que je vous entends keynésien, là.
Mais non, mais non. Les multiplicateurs, ils sont partout. Hein. Gérer une activité, on traite toujours l'autre, ça n'a rien de keynésien, ça. Mais non, l'interdépendance économique, elle est par nature.
Que la dette pèse sur les générations futures, parce que
moi, je ne voulais pas dépenser plus. Enfin, on ne parle pas non plus des taux d'intérêt moyen des crédits qui ont quand même dépassé en mars la barre des 3%.
Oui, on va aller à 4%. Là, on dit on va attendre que les taux se réajustent. Non, ils ne vont pas se réajuster, ils vont continuer d'augmenter pour revenir à la normale. Marc, la petite pause, 18h41. Oui, Standard & Poor's, dans un instant. On s'est dévalidé, et puis ce matin, un peu névrotique que nous sommes, on se dit, mais au fait, pourquoi ils nous ont dégradés? Pourquoi ils ne nous ont pas dégradés? C'est une bonne question, ça.
Ah ben, on a des réponses.
Oui.
À tout de suite.
Good evening business, le débat.
Allez, 18h45, c'est reparti pour le grand débat avec Audrey Tcherkov, avec Nathalie Janson, avec Lee Mwangnok et avec Emmanuel Lechypre. Alors, on voulait revenir, oui, sur cette annonce surprise vendredi soir, juste avant le week-end, puisque Standard & Poor's, qui... Alors qu'on s'était un petit peu fait à l'idée, finalement, hein, en fin de compte, décider de ne pas dégrader notre souveraineté. On avait fait un pari là-dessus.
Oui, moi j'ai perdu, Guillaume.
Ah, je m'en rappelle plus.
Moi aussi, j'ai perdu. Mais je suis la seule à avoir gagné. On avait parié beaucoup d'argent.
Donc tout ça pour dire, on se le dit, on est toujours noté double A chez S&P aujourd'hui.
Oui, alors pourtant, on va écouter tout de suite ce que disait ce matin l'essayiste Alain Minc, et c'est loin d'être évident. Écoutez.
C'est plutôt une bonne nouvelle, mais on continue à danser sur un volcan. Quand on regarde objectivement les choses, c'est un miracle que la France s'endette à un prix aussi proche des Allemands. À mains égards, elle devrait s'endetter à un prix beaucoup plus proche des Italiens.
On le mérite pas. La situation italienne, on le mérite pas.
Non. C'est pour une part, il y a encore une révérence par rapport à ce que nous sommes. La situation italienne est meilleure que la nôtre. Les Italiens ont un excédent de balance commerciale et leur situation budgétaire est même meilleure.
Voilà, faut croire que Bruno Le Maire a trouvé les mots qu'il faut. Qu'est-ce qu'il a bien pu leur raconter?
Alors j'anticipe, parce que je pense que les plus cyniques de ce plateau vont dire que si la note avait été dégradée, ça n'aurait rien changé, mais quand même, c'est une bonne nouvelle, parce que en réalité, ça va aider à préserver la confiance des marchés, parce que ça veut dire qu'une note qui n'est pas dégradée, ça veut dire que la France a une forte capacité à rembourser sa dette. Donc c'est quand même une vision optimiste qui prend le contre-pied de la sinistrose actuelle, qui prend aussi le contre-pied de la note dégradée par Fitch fin avril. Et c'est d'autant plus satisfaisant que en décembre dernier, donc il n'y a pas si longtemps que ça, Standard & Poor's, justement, disait que la dégradation était à l'ordre du jour parce que ralentissement de l'économie française, parce que absence de grandes réformes structurelles et puis dégradation des finances publiques. Donc force est de constater quand même que les efforts du gouvernement ont payé, notamment sur la fin programmée des aides énergétiques et puis sur la réforme des retraites, et que la feuille de route budgétaire, même si elle ne va pas forcément être respectée, a réussi à convaincre.
Mais prochaine revue de la note en décembre prochain, Nathalie, donc pour ce qui est de la préparation du budget 2024...
Comment c'est pas être pessimiste, Guillaume?
C'est comme ça, budget 2024, ça va être le petit doigt sur la couture du pantalon, finalement, Nathalie. On ne fait que repousser l'échéance.
Oui, donc là, je ne sais pas, est-ce qu'ils n'ont pas voulu éviter de vexer Bruno Le Maire qui s'était tellement engagé? Ils se sont dit, oh, après tout ce qu'il a essuyé, il est retraite, tout ça, on va pas l'embêter, allez, on va lui laisser son petit double A. On va quand même dire qu'il y a une perspective négative, puisque en effet, il y a quand même toujours ce qui pourrait plomber, c'est le fait qu'on n'avance pas dans les réformes, et toujours lié au déséquilibre, enfin au manque d'équilibre politique dans l'Assemblée, c'est-à-dire que comme il n'y a pas d'alliance à long terme...
Bah, attendez, Nathalie, là on a avancé à la fois sur les retraites, on débranche toutes les aides publiques, en l'occurrence sur le logement, on vient d'en parler.
Oui,
donc le gouvernement avance en tout cas sur le robinet des aides publiques qui était trop ouvert.
Il y en a beaucoup d'autres encore sur lesquels il faudrait avancer. Donc je ne vais pas m'avancer. Je ne sais pas ce qui pourrait compromettre la feuille de route aujourd'hui le plus, mais en effet, et c'est pour ça qu'ils ont mis une perspective négative pour voir effectivement comment ils avanceront dans ce qu'ils ont énoncé, c'est-à-dire à savoir de faire une revue des dépenses et d'aller essayer d'aller là où on peut la diminuer pour avoir le plus d'efficacité sur le retour de la dépense.
Lim, comment est-ce que vous avez regardé cette séquence, vous, Standard & Poor's? Vous dites, nos efforts ont payé ou quoi, finalement?
On parlait de Keynes tout à l'heure, mais Keynes compare les marchés à un concours de beauté. Et les agences de notation, c'est le jury de ce concours de beauté.
Elles ont perdu leur influence quand même, hein.
Non, mais
justement, elles la reprennent avec la remontée des taux d'intérêt.
C'est elles qui décident si... celle-ci est plus belle que celle-là, celle-ci doit être notée A, l'autre B, l'autre triple C, etc., etc. Dans un contexte où les marchés sont caractérisés par l'incertitude. L'incertitude, ça veut dire qu'on ne sait pas quelle est la solidité réelle des États, des entreprises qui émettent des titres que les épargnants vont acheter sur les conseils du jury. C'est ça le marché financier. Et comme la situation est très incertaine s'agissant des entreprises et des États, eh bien c'est la rumeur qui fait la cotation et les agences de notation participent de cette rumeur. Et la rumeur aujourd'hui dans ce que Alain Minc a appelé ce matin le cercle de la raison, c'est que la bonne politique à adopter, c'est la trajectoire que présente par exemple Bruno Le Maire dans le programme de stabilité qui consiste à dire voilà, on va faire évoluer les dépenses publiques à un rythme deux fois moins important que le PIB potentiel et par ailleurs on va poursuivre les baisses d'impôts parce que les baisses d'impôts, notamment sur les catégories qui épargnent, c'est important.
C'est ça qui a convaincu la S&P.
Ce qui a convaincu Standard & Poor's, c'est la norme du moment, c'est la norme de beauté du moment, qui n'est pas forcément la plus efficace, parce qu'effectivement, Alain Minc a raison de dire que le déficit commercial français est très inquiétant et que la performance de l'économie française ne mérite peut-être pas de bonnes notations économiques, mais la norme du moment, c'est que les politiques d'austérité pour les uns et le bonheur fiscal pour les autres, bah, c'est la norme qu'a doublé les marchés aujourd'hui.
Emmanuel, elle vous plaît la norme du moment ou pas ?
Bon, c'est-à-dire que la situation de la France n'est ni meilleure ni moins bonne après la décision de Standard & Poor's. La trajectoire de la France, moi, honnêtement, je ne vois pas très bien quelles sont les raisons, à part de se dire, bon, il y a quelques événements qu'on attend pour les mois qui viennent, est-ce qu'on va vraiment finir avec la réforme des retraites, voir peut-être comment évoluent quelques prix de l'énergie, etc. Parce que sinon, je veux dire, ça fait 40 ans que la France promet mordicus à chaque fois quand elle transmet sa trajectoire de finances publiques à Bruxelles, qu'elle va réduire la dette et les déficits et qu'elle ne le fait pas. Donc la France est quand même la plus grande menteuse de toute la zone euro, hein, sur les promesses non tenues. C'est vrai, je pense qu'Alain Minc a raison, il y a un effet réputation qui fait que on bénéficie. Alors est-ce parce que on a, est-ce qu'on fait partie du Conseil de sécurité de l'ONU, je ne sais pas.
On sait lever l'impôt,
c'est peut-être ça effectivement. L'efficacité de, je pense que l'efficacité de Bercy joue au sens à la fois fiscal et au sens à la fois de la compétence des traders de la République et qu'on sait très bien que la France a une capacité à émettre de la dette, etc. Peut-être sur des critères techniques comme ça, parce que sur la trajectoire, elle n'a jamais été aussi discutable finalement. Déjà qu'on n'a jamais tenu dans le passé cette trajectoire. Quand vous avez autant de promesses et d'engagements qui sont pris sur les dépenses, qu'en même temps on vous dit les impôts n'augmenteront pas et qu'en même temps on vous dit les déficits vont diminuer, moi j'avoue que Bruno Le Maire qu'il est, je vois pas comment il a pu convaincre avec ce numéro d'équilibriste.
Non mais c'est marrant parce que même les bonnes nouvelles ont réussi à les plomber. Une dégradation de la note française, ça aurait voulu dire un renchérissement de l'endettement et de la charge de la dette.
Pas du tout.
Vous êtes content que les Français
Après la dégradation de 2012, quand on a perdu le triple A, un an après, on s'endettait à un point en dessous. Donc, la réalité, c'est que les marchés ne fonctionnent pas non plus pendant des années. Cette idée que les marchés ajustent en fait en fonctionnant, tout ça, c'est bidon. C'est bidon. La meilleure preuve, c'est que quand on a, avant la crise grecque, je veux dire, la Grèce, l'Allemagne et la France empruntaient quasiment au même taux. Donc, il n'y a aucune force de rappel qui vient des marchés. C'est du fantasme.
Alors, les agences de notation faisaient
quand même la pluie. Alors, lui, il ne revient pas, il se dit ça y est, il a basculé.
Les agences de notation faisaient quand même la pluie le beau temps pendant la crise de la zone euro, rappelez-vous.
Ce qui est vrai, c'est que, en fait, ce qui s'est passé avant la crise grecque, c'est qu'en fait, effectivement, il n'y avait pas de distinction au sein de la dette de la zone euro. C'est-à-dire les investisseurs estimaient que c'était la même, bon, avec une petite prime pour l'Allemagne, mais que grosso modo, c'était la même. Après, on s'est rendu compte qu'il fallait quand même qu'on aille regarder un peu plus dans le détail de chaque pays. Mais aujourd'hui, effectivement, même si la France n'a pas une super trajectoire, ça reste celle qu'on va acheter après celle de l'Allemagne. Ouais. Et puis, comme on rentre bien, effectivement, l'impôt qu'on est efficace, on reste sur cette réputation. Et comme je l'avais déjà rappelé, il faut savoir que le Japon, qui a 250% de dette, est en A également, parce qu'il rentre aussi l'impôt et il s'endette à
taux extrêmement faible, ce qui fait que la charge de la dette est faible. C'est-à-dire l'endettement a augmenté, mais la charge de la dette a diminué. Donc nous, par contre, ça devient l'équilibre est moins bon puisque la charge de la dette, elle va commencer, elle a augmenté.
Bah oui.
Mais Lim, pour conclure voilà. Là-dessus.
Allez. La différence entre avant et après la crise de 2009, c'est que la Banque centrale intervient, a fait du quantitative ouais. easing et oui. a montré qu'elle oui. était capable d'enrayer oui. une pression sur les taux, oui. quoi qu'en dise.
Et aujourd'hui, c'est même gravé dans le marbre.
Le spread ça. Avec l'Allemagne, il n'a pas bougé. Et je pense que la Banque centrale fera le nécessaire.
Il y a des États qui considèrent aujourd'hui encore en 2023 que la Banque centrale européenne, de toute façon, sera là quoi qu'il arrive.
Ah bah, c'est même écrit. Hein. Dans un petit arrangement de l'automne dernier,
la lutte contre l'aléa moral. Et la Cour de Karlsruhe qui avait saisi la Cour de justice européenne contre les actions de la BCE a dû abréger son chapeau.
Exactement.
Bon, on se réjouit quand même.
Écoutez, vous m'avez un peu plombé, mais je continue à me réjouir toute seule.
Bon, et Menel a l'air réjoui aussi. Oui. Vous aviez parié quoi, vous, dégradation?
Moi, j'avais parié dégradation.
Oui, quand même.
Voilà, vous voyez. Une idée,
Et ben rendez-vous en décembre pour voir ce que nous dira Standard & Poor's, puisque on repousse l'échéance peut-être ou pas de 6 mois, on verra ça. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus ce soir sur le plateau de BFM Business. Nathalie Janson, économiste, professeure associée à Neoma. Lim Hwangnot, maître de conférence en économie à l'Université de Paris, ancien député européen. Et Emmanuel Le Chypre avec nous. Bien évidemment, merci beaucoup à tous les trois. 18h55, nous on va se retrouver dans un petit instant.
On va continuer à parler logement.
Oui. On va parler logement, évidemment. On va parler
Apple, d'Apple. Le grand keynote d'Apple.
Vous savez depuis quand il n'y a pas eu d'innovation majeure produit chez Apple, mine de rien?
L'Apple Watch.
De Steve Jobs.
2014.
Non, oui, alors c'était l'Apple Watch en 2014. Ouais. Pas de lancement fort. On va aller, bien sûr, voir ça avec Frédéric Simotel. Et puis, on parlera de cette grosse commande qui se dessine, là, du côté d'Airbus. 500 appareils d'un seul coup, dites donc. C'est Air Indigo, compagnie indienne, qui pourra... Ouais.
C'est pas bien, hein.
Bah, les chiffres rebondissent. Il y a 4,5 milliards de personnes qui seront transportées cette année. C'est quasiment le record
de 2020. Alors que les prix augmentent considérablement. Ouais.
Voilà. On raconte tout ça dans un instant et plein d'autres choses, évidemment.
À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.